Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Voilà, avant toute chose, je vais m'excuser pour la qualité de ma voix, qui a eu quelques soucis. C'est que ce n'est pas très agréable. Mais la parole de Dieu, je pense, hein, quel que soit le canal que Dieu utilise, c'est une source de bénédiction pour nos vies. Alors, je vais être un petit peu frustré. Est-ce que vous pourriez m'aider à l'être un petit peu moins, sans que ça fasse trop de désordre? Vous le comprendrez mieux tout à l'heure. Mais est-ce qu'il serait possible qu'on se rapproche un petit peu les uns par rapport aux autres? On est tous un petit peu clairsemés dans la salle. Ça serait possible qu'on puisse se rapprocher? Voilà, je voulais tester votre obéissance en fait. Hein, voilà. On va partager le thème tellement riche et important de la communion fraternelle. Pourquoi je disais que j'allais être frustré? C'est parce que vous voir disperser les uns par rapport aux autres et moi vous encourager à vous rapprocher, voilà, c'est beaucoup plus facile pour moi comme cela. Et puis vous verrez que l'expérience faisant aussi, lorsque ça, vous savez, des fois quand il y a des grandes salles comme ça, eh bien si on peut se rapprocher les uns par rapport aux autres, prier côte à côte avec son frère ou sa sœur, c'est autre chose que d'être un peu disséminé dans la salle. Je voudrais lire un premier texte avec vous dans le psaume 133. Psaume 133. C'est un texte que l'on connaît bien, que l'on chante, et qui nous rappelle une grande réalité que je voudrais partager avec vous ce soir. Le psaume 133. Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Verset premier, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ce soir, nous allons partager eh bien, cette riche bénédiction qui existe, qui découle de la communion fraternelle. Alors, la communion fraternelle, ça peut avoir un petit sens pour certains, juste le fait de se retrouver voilà, quelques minutes ici dans ce lieu. Mais la communion fraternelle, c'est quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste que ces quelques minutes si précieuses que nous pouvons passer ensemble. Et nous partagerons un petit peu cela ce soir. Nous sommes intéressés par la bénédiction de Dieu, les uns et les autres. Il y a une promesse qui s'attache à une réelle communion fraternelle, où Dieu, il le dit dans ce psaume, envoie véritablement sa bénédiction. Et je pense que plusieurs d'entre nous, nous avons déjà expérimenté la grâce de Dieu, lorsque, ensemble réunis, pour le louer, pour l'adorer, pour le prier également, nous avons vécu parfois des moments extraordinairement riches de sa présence. Et c'est là une promesse à laquelle nous voulons nous attacher aussi ce soir. Vous savez, c'est souvent rappelé dans ce lieu, mais Dieu souvent retient la bénédiction, ne peut pas nous la donner à cause des mauvaises dispositions de nos cœurs, à cause de notre infidélité. J'ai noté par exemple ce verset de la parole de Dieu où il est dit ceci, « La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance » que j'avais faite avec leur père. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer, ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Il y a des versets quand même qui sont saisissants, qui nous montrent, c'était dans Jérémie chapitre 11, versets 10 à 11, pour ceux qui prennent des notes, qui nous montrent que parfois Dieu, malgré son intention et son désir surtout de nous bénir, Dieu ne le peut pas. Mais dans d'autres circonstances, comme cela a été rappelé d'ailleurs dimanche matin, lorsque le peuple de Dieu eh bien, a décidé pleinement dans son cœur de se conformer aux directives de Dieu, Dieu fait cette promesse comme il le fait dans ce psaume que nous venons de partager. Dieu envoie sa bénédiction. Dieu a ce désir de richement nous bénir. Je pense que cette intention, elle est claire dans vos cœurs et Je voudrais vraiment que nous puissions être encouragés ce soir. Je sais que c'est une dimension que nous vivons dans notre assemblée. Et merci Seigneur pour cela. Mais soyons encouragés à aller encore plus loin dans cette dimension de la communion fraternelle. En méditant ces versets, je pensais que souvent c'est vrai, et nous avons raison de le faire, nous insistons sur notre relation personnelle avec Dieu, et la qualité de notre vie d'Église, elle dépend en définitive de notre relation personnelle, individuelle avec le Seigneur, c'est la base, mais elle dépend aussi, je pense, cette richesse, cette bénédiction, elle dépend aussi de la communion que nous avons les uns vis-à-vis des autres. Je voudrais vous raconter une fable chinoise qui dit ceci. On a demandé un jour à un sage sa vision sur l'enfer et sur le paradis. Alors voici ce qu'il a dit. Dans l'enfer, je vois des hommes qui sont autour d'une table et devant chacun d'entre eux, il y a de bonnes assiettes de riz bien remplies. Et pourtant, ces hommes, ils sont comme mourant de faim, ils sont décharnés, ils sont très tristes et malheureux. C'est en fait que pour pouvoir se servir, ils avaient des longues baguettes, des baguettes de 2 mètres de long. Et ils étaient incapables de se nourrir. Entre parenthèses, vous savez, quand déjà les petites baguettes normales, c'est pas forcément évident de mettre le grain de riz à la bouche. Et la vision qu'il a eue dans le paradis, c'est celle-là. C'est un petit peu le même tableau, des hommes autour de la table, avec des grandes assiettes pleines de riz, aussi avec ces curieuses baguettes. Mais par contre, eux étaient pleinement heureux, en très très bonne santé. Ben, c'est en définitive qu'ils se servaient des baguettes pour nourrir celui qui était en face. Et je crois que cette image, c'est une grande réalité de ce que nous sommes nous aussi appelés à vivre. Et ce message que nous partageons ce soir, c'est aussi parce que dans notre société, il y a de plus en plus d'individualisme. Et nous devons être vigilants que la mentalité du monde, vous savez comment plusieurs fois les apôtres nous encourageaient à ne pas nous conformer à la mentalité du monde, que cette mentalité individuelle, très égoïste, disons-le très clairement ce soir, eh bien, ne gagne pas l'Église. Mais qu'au contraire, comme nous allons le partager ce soir, nous soyons encouragés à considérer, et ça sera les deux grands thèmes de notre partage ce soir, que j'ai besoin des autres, et aussi que les autres ont besoin de moi. Et pour résumer un petit peu cette expression, il y a une expression qui revient souvent dans la parole de Dieu, c'est « les uns, les autres ». Vous avez certainement vu ces versets, on va en revoir quelques-uns. Et ce sera le titre de notre message d'ailleurs ce soir, les uns, les autres, j'ai besoin des autres, et les autres ont besoin de moi. On va partager le message en 3 parties. La première partie, on va regarder, parce que je sais qu'ils sont trop nombreux, mais je voulais quand même le regarder avec vous, je voudrais lire plusieurs versets où nous voyons cette expression, les uns, les autres. Ça sera notre premier temps. En deuxième temps, on reverra cette pensée très forte, j'ai besoin des autres. Et on terminera par cette dernière pensée. Les autres aussi, ils ont besoin de moi. Alors, on va lire juste. Elles sont tellement nombreuses, ces expressions, dans le Nouveau Testament, les uns les autres. On pourrait commencer par la première, dans Jean, au chapitre 13. On peut commencer par celle-là. En fait, je les ai mises dans l'ordre de la parole de Dieu, pour que ce soit facile pour vous, puis qu'on puisse en lire plusieurs. Mais finalement, cette exhortation, c'est le commandement même que le Seigneur Jésus nous a laissé, elle peut englober toutes les autres. Jean, au chapitre 13, verset 34, je vous donne, Jean 13, verset 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Amen. Vous voyez cette expression, les uns, les autres. C'est bidirectionnel, ça va dans les deux sens. Aimez-vous les uns les autres. Il est certain que si nous vivons cela, toutes les autres exhortations que nous lisons dans la parole de Dieu, eh bien, elles vont en découler tout à fait naturellement, parce que s'il y a cet amour ardent tel que le Seigneur Jésus a manifesté pour nous, il est bien certain qu'on va vivre des choses extrêmement fortes entre nous. Ça paraît superflu de lire les autres versets, mais on va les lire parce qu'ils sont dans la parole de Dieu. Et je crois que si la parole de Dieu insiste bien, et s'il y a souvent cette expression, c'est parce que c'est peut-être pas aussi naturel que cela que nous puissions le vivre au milieu de nous, et on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. On tourne un petit peu les pages et on arrive dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12. Romains 12. Romains 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Voilà l'exhortation à nous honorer, d'une certaine manière, les uns les autres. Je ne les commente pas, c'est vrai que chaque verset, c'est pratiquement une prédication, mais juste pour que ceux qui ne sont peut-être pas habitués à ces textes puissent voir combien la parole de Dieu insiste sur cette expression « les uns les autres ». Romains chapitre 14, verset 13. Romains 14, verset 13. « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres ». Mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Romains chapitre 15, verset 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Romains chapitre 15, verset 7. C'est sur le thème de l'accueil. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Alléluia. Comment Christ vous a accueilli? C'était formidable. Vous êtes encouragés par ce verset que nous avons lu à manifester le même accueil. C'est comme ça que vous le lisez aussi? Ça va? J'exagère un peu? Non? Colossiens, chapitre 3, verset 13. Nous sommes encouragés aussi à nous supporter les uns les autres. Éphésiens, Colossiens chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens chapitre 3, verset 16. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Amen. Encouragez à s'instruire les uns les autres, à s'exhorter au travers de ces cantiques, tous ces partages spirituels chantés à l'Éternel. On peut encore ajouter 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 18. Je vous les ai mis dans l'ordre. J'étais gentil. 1 Thessaloniciens 4, verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et puis on pourrait en lire, allez, un petit dernier, 1 Thessaloniciens 5, verset 13. Soyez en paix entre vous. Amen. Soyez en paix entre vous. Il y a plein d'autres versets où nous sommes appelés à veiller les uns vis-à-vis des autres, aussi à nous saluer, aussi cette exhortation dans l'épître de Jacques que nous rappelons souvent, mais qui est importante de rappeler, c'est de prier les uns pour les autres. Voilà, j'ai pris un petit peu de temps, mais je trouve tellement important que nous puissions méditer. C'est vrai que c'est très facile aujourd'hui avec les concordances bibliques, d'autant plus sur l'ordinateur. Voilà, vous mettez les uns les autres et vous verrez, vous serez impressionnés. Peut-être avec les passages parallèles aussi, parce que des fois, ce n'est pas exactement les mêmes mots qui sont écrits. Mais de voir combien nous sommes encouragés à considérer l'autre, le prochain, celui que le Seigneur a mis sur notre chemin. Alors, le deuxième point que je voudrais partager avec vous, c'est cette dimension. J'ai besoin des autres. Il y a un principe dans la parole de Dieu qui est très clair et que nous rappelons souvent lors des mariages. C'est que deux valent mieux qu'un. On va lire ce verset dans Ecclésiaste, même si ce n'est pas un mariage. C'est vrai qu'il y a des versets, il y a des thématiques qui sont réservées pour des circonstances particulières. À moins qu'il y ait des unions dans l'air, ça peut servir. Ecclésiaste 4, verset 9. C'est un principe que nous allons voir au travers de la parole de Dieu dans d'autres dimensions aussi. Deux valent mieux qu'un. Ecclésiaste 4, verset 9. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Amen. C'est un principe dans la parole de Dieu. Deux valent mieux qu'un. On le retrouve aussi dans une autre dimension qui se regroupe avec celle-là. C'est dans le livre de la Genèse. Vous savez, quand Dieu a créé toute chose, il est dit un peu avec répétition, Dieu vit que ce qu'il avait fait était bon. Jusqu'à un point où la parole de Dieu dit que Dieu vit et c'était très bon. Pourtant, au milieu de cette belle création de Dieu, il y avait quelque chose qui n'était pas bon. Vous savez ce que c'était ? C'est quoi ? Ah oui, il y avait quelque chose qui n'était pas bon. Il est écrit ceci, l'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Voilà, dans la création entièrement bonne, parfaite, est apparu quelque chose qui n'était pas bon. C'était que l'homme était seul. Vous inquiétez pas, Dieu n'a pas été pris au dépourvu de se rendre compte que l'homme était seul. Pourquoi ce décalage un petit peu? Ça, c'est partie du mystère de Dieu. Peut-être aussi que l'homme avait besoin de considérer son besoin profond d'une aide semblable à lui. Et c'est ce que Dieu lui a donné. L'homme a besoin de son égal, qui est placé vis-à-vis de lui, différent de lui. Il a besoin d'une aide sur laquelle il pourra s'appuyer. C'est une idée de complémentarité. Un petit peu, je prendrai cette image ce soir, vous savez, comme deux pièces d'un puzzle. Ils vont être différents, mais ils vont s'imbriquer. Et ils vont être complémentaires entre eux. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Deux valent mieux qu'un. Vous savez, le vrai sens du couple, en tout cas tel que Dieu l'avait institué, c'est le dialogue, l'échange, reconnaître l'autre comme à la fois différent, c'est vrai, l'homme et la femme, différents, mais en qui l'on peut se confier, en qui l'on peut se reconnaître également, et en qui on peut former une seule chair. Normalement, la famille qui était ainsi constituée par Dieu devait constituer la, on va dire, la cellule même de base de la société. Et c'est ce fondement divin que les hommes sont en train de complètement remodeler. Toujours sur ce principe, j'ai besoin des autres dans la Bible. Il y a cette dimension, on va la lire ensemble dans Exode chapitre 18. L'homme ne peut pas diriger le peuple tout seul. Exode chapitre 18. Ce sont des exemples pour que nous puissions voir qu'on a besoin des autres. Exode Exode chapitre 18, ça a été l'expérience de Moïse. Et on peut la transposer aujourd'hui également. Seul, on ne peut pas s'occuper du peuple de Dieu. Exode 18, verset 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple ? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi, depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux, je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. » Amen. Vous pourrez relire tout le contexte chez vous de ce passage, mais vous avez vu, seul, au verset 14, « Pourquoi sièges-tu seul ?» et au verset 18, « Tu ne pourras pas y suffire seul. » Jéthro va conseiller ensuite Moïse d'établir des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 10, et c'est ensemble qu'ils vont porter la charge du peuple avec Moïse. Si vous regardez bien, je ne peux pas m'attarder sur ce passage particulier, mais certainement la survie du peuple d'Israël a été déterminante par cette décision qui a été prise à ce moment-là, d'une forme d'organisation où l'homme ne se sentait plus seul, mais avait réalisé qu'il avait besoin d'être aidé. Et si vous prenez une transposition, vous le voyez aussi dans l'Église primitive, puisque lorsque l'Église a commencé à se développer, vous voyez cela dans le chapitre 6 du livre des Actes, eh bien, il a été important, à un moment donné, de désigner des frères pour servir aux tables, afin que les apôtres puissent continuer pleinement à s'occuper de la parole de Dieu, à s'en imprégner pour la communiquer. Alors, toujours sur ce thème, j'ai besoin des autres. Vous voyez, on a vu un petit peu, deux valent mieux qu'un. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu ne peux pas gouverner l'Église, je mets gouverner entre guillemets, mais en tout cas superviser en tout cas l'Église tout seul. Et dernier exemple de ce thème, j'ai besoin des autres, c'est que les apôtres ont toujours été envoyés deux par deux. Il nous est dit ceci, « Alors Jésus appela les 12 et il commença à les envoyer deux à deux. » Ça, c'était leur première tournée missionnaire. Jésus a envoyé les apôtres par deux. Et au cours un petit peu de ce qui est devenu un peu leur stage pratique, ils allaient certainement au-devant de difficultés, d'incompréhension de la part du peuple. Et ils ne seraient pas trop de deux pour se soutenir, pour s'encourager, pour veiller l'un sur l'autre. C'est la sagesse de Dieu, en tout cas, d'avoir permis qu'ils ne partent pas seuls, mais qu'ils soient à deux. Et vous verrez plus tard, d'ailleurs, même quand le Seigneur Jésus est reparti, que les apôtres vont continuer cette évangélisation du monde. Vous voyez des binômes missionnaires, vous avez Pierre et Jean, vous avez Paul et Silas, vous avez Paul et Barnabas. Regardez cela dans le livre des Actes, ils n'étaient pas seuls. Et en définitive, quand on regarde toute la parole de Dieu, que ce soit au sein de la cellule familiale, telle qu'on peut la connaître et la vivre, que ce soit au sein de notre vie en société, nous voyons ce principe que Dieu a institué, deux valent mieux qu'un. Comme si pour le Seigneur, la plus petite entité, en définitive, eh bien, ça serait le binôme. Deux. Il est écrit ceci, c'est Jésus qui le dit. Je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Si deux d'entre vous s'accordent. Et on cite souvent la suite de ce verset, « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, a dit le Seigneur. » Je vous ai cité Matthieu, chapitre 18, verset 19. L'Église, c'est un corps. L'Église est appelée le corps de Christ. Et vous savez, dans le corps, il y a des organes de partout. Et ils sont utiles, chacun. Mais aucun d'entre eux ne peut faire tout seul. La parole de Dieu déclare ceci, l'œil ne peut pas dire à la main, j'ai pas besoin de toi. ni la tête dire aux pieds, « J'ai pas besoin de vous. » 1 Corinthiens 12, verset 21. Voilà, ça c'était le deuxième thème que je voulais laisser sur votre cœur. J'ai besoin des autres. Pourquoi j'ai beaucoup, arrêté sur cette dimension, j'ai besoin des autres? Parce qu'elle est fondamentale pour vivre l'autre dimension, les autres ont besoin de moi. C'est dans la mesure où j'ai compris, où j'ai réalisé, où j'ai expérimenté personnellement que j'ai besoin des autres, qu'à mon tour, je vais pouvoir être sensible aux besoins des autres. Si moi, je ne ressens pas ce besoin des autres dans ma vie personnelle, si je me sens peut-être suffisant dans ma marche avec le Seigneur, si je ne réalise pas que j'ai besoin, comme nous l'avons partagé dans ces différents versets, des autres, pour qu'ils prient pour moi, pour qu'ils m'accueillent, pour qu'ils m'exhortent, pour qu'ils m'enseignent, je ne pourrai pas être sensible au plus profond de mon cœur à son besoin à lui. Et je veux maintenant quand même terminer par cette troisième partie. J'ai besoin des autres, oui, et les autres, ils ont besoin de moi. C'est ce que signifie en définitive cette expression, les uns, les autres. Communion fraternelle, demeurer ensemble, comme nous l'avons lu dans le psaume 133. Je fais une petite parenthèse quand même parce que, je l'ai dit tout à l'heure, au tout début, nous insistons sur notre vie personnelle avec le Christ et nous avons besoin de le faire, elle est fondamentale. Nous ne pouvons pas imaginer une communion réelle et vivante si nous n'avons pas une communion personnelle avec le Christ. On va revenir sur cette image du corps. Vous savez, le corps, il est dirigé par la tête. Et le corps de Christ, l'Église, la tête, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui coordonne tout, en définitive. Il y a des organes dans notre vie. Et en définitive, chacun d'entre nous, nous sommes connectés à la tête. Je dis cela pourquoi j'insiste, parce que sur le thème de la communion fraternelle, ou du rassemblement, ou de l'unité des croyants, il y a un petit peu tout et n'importe quoi qui se dit sur ce thème-là, ne peuvent être unis entre eux que ceux qui sont véritablement unis avec le Christ. Et ça, c'est le fondement, le socle de la véritable unité des croyants, telle que le Seigneur Jésus l'a voulu et le veut encore, telle qu'il l'avait prié aussi dans cette prière sacerdotale. Tout ce que j'ai dit sur « j'ai besoin des autres » va forcément aussi être utile pour « les autres ont besoin de moi » puisque c'est une réciprocité, comme je l'ai dit, c'est une relation, c'est bidirectionnel. Mais il est bon aussi d'insister sur ce point également car la communion fraternelle, c'est vraiment une relation qui va dans les deux sens. Et la plus belle image que la Bible nous laisse au travers de l'apôtre Paul, c'est celle du corps humain, effectivement. Et c'est vrai qu'on a trop souvent oublié que l'Église, qui est appelée le corps de Christ, nous connaissons ce terme, corps de Christ, mais nous oublions parfois que s'il a été utilisé, c'est justement par analogie au corps humain. Christ est la tête et nous sommes les membres. Chacun, nous sommes les bras, chacun pour notre part. Je le redis, j'y reviendrai pas, mais bien sûr lorsque nous sommes devenus véritablement ses enfants, lorsque nous avons cette connexion directe avec le Christ dans notre vie personnelle. C'est vrai que nos organes sont tous différents. Il y en a certains, on les ignore jusqu'au jour où on souffre. Tiens, ça existe. On tape sur Google. Nos organes sont tous différents. Et c'est vrai que certains sont plus considérés que d'autres, hein, au niveau vital. Mais quel que soit notre rôle, quelle que soit notre place dans le corps de Christ, nous devons réaliser que nous sommes dépendants les uns des autres. Cette image du corps, elle est très forte parce qu'elle nous parle, c'est vrai, de certains organes vitaux. On pourrait dire, bon, je peux vivre sans la main. Je n'ai pas forcément envie quand même de vivre sans ma main. Mais je ne peux pas vivre sans mon cœur. Donc il y a des organes vitaux. Et c'est vrai que dans l'Église, Dieu a permis qu'il y ait des ministères peut-être prépondérants. Mais même cela, doivent comprendre qu'ils ont besoin des autres. Quel que soit notre rôle, notre fonction, nous devons comprendre que nous dépendons aussi de notre relation avec les autres. Bien sûr, de notre relation avec Christ, hein, je l'ai dit, mais j'insiste là-dessus, mais de notre relation, puisque c'est notre thème ce soir, de notre relation les uns avec les autres. C'est vrai que dans l'Église, c'est pareil, il y a un petit peu des ministères. Dans le mot ministère, voyez-y, toujours le mot service. Hein, ministère, c'est le service. C'est vrai que c'est peut-être plus visible, voilà, quelqu'un qui enseigne, ou quand on est, par exemple, à la musique, on est chantre, ou qu'on participe à la chorale, c'est vrai qu'il y a quand même des services, des ministères qui sont peut-être plus visibles que d'autres. On ne voit pas forcément le frère et la sœur qui fait le ménage, celui ou celle qui va visiter une personne âgée régulièrement. Mais je peux vous assurer que nous tous, quelle que soit notre fonction, nous devons réaliser, comprendre que nous avons besoin des uns, des autres, quels qu'ils soient. On n'a certainement pas à dénigrer qui que ce soit. Mais peut-être aussi à l'inverse, hein, nous qui peut-être nous sentons des fois un petit peu... vous savez, des fois, on envie certains. Vous savez, ça peut arriver, hein, lui chante bien, j'aimerais chanter comme lui, etc. Et c'est vrai qu'il y a peut-être des positions qui sont enviables, je ne sais pas trop comment l'exprimer ce soir. Mais à l'inverse aussi, réalisez que même si votre place et votre rôle dans le corps de Christ, elle vous semble peut-être secondaire, comme, je ne sais pas moi, un petit doigt d'une main, d'un orteil, j'en sais rien. Les organes vitaux ont besoin de vous. Et ça, c'est important. Vous avez votre place. Et on ne doit pas vivre comme cela avec une certaine envie permanente. Chacun d'entre nous, nous avons véritablement besoin les uns des autres. Oui, les autres. Les autres, ils ont besoin de moi. Je pense que beaucoup de crises dans les communautés seraient évitées si ces principes d'interdépendance, de complémentarité, d'unité, de diversité aussi, puisque nous sommes différents, mais c'est une richesse aussi d'être différent, eh bien, si ces principes-là étaient mieux respectés. Vous le verrez peut-être lors de... Enfin, l'idéal, ça serait qu'on ne le voit pas, mais quand il y a des crises importantes dans les églises, et nous le voyons d'ailleurs dans la parole de Dieu, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, lorsque l'apôtre Paul est obligé de régler certaines tensions au niveau de l'église, vous verrez que souvent, il y a un arrière-plan d'individualisme ou de personne. Et cela n'existerait pas si les uns et les autres nous puissions vivre véritablement cette interdépendance. J'ai besoin des autres et les autres ont besoin de moi. On pourrait faire une petite analogie, parce que c'est quelque chose de catastrophique dans notre société, mais c'est pareil dans le couple. Dans le couple, on a vu les fondements tels que Dieu a voulu les concevoir, mais si vous vivez une vie de couple en ne considérant pas que vous avez besoin de l'autre et que l'autre a besoin de vous, mais que vous vivez d'une manière totalement indépendante, vous voyez, aujourd'hui, les suivis de couple sont catastrophiques parce qu'il n'y a plus d'interdépendance et d'interconnexion les uns avec les autres, et c'est pour cela aussi qu'il y a aussi tant de dégâts. Je voudrais juste lire deux versets importants qui vont résumer un petit peu ce que je viens de dire sur le corps de Christ. Dans Romains au chapitre 12, ça sera nos deux derniers textes, Romains chapitre 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Nous sommes tous membres les uns des autres. Vous pourrez lire peut-être les versets qui suivent, mais je voudrais lire un dernier texte dans 1 Corinthiens chapitre 12. Ce sera l'avant-dernier texte. Voilà. Comme ça, vous ne me lapiderez pas. 1 Corinthiens chapitre 12. Bon, souvent, on dit c'est le dernier, puis... Mais là, c'est sûr, c'est l'avant-dernier. 1 Corinthiens 12. On va lire à partir du verset 12. Et on fera une petite pause au verset 21. 1 Corinthiens 12, verset 12. « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Si tout le corps était œil, voilà, pardon, s'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Verset 18, « Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps, comme il a voulu ». C'est important ça, ce « comme il a voulu », hein. Verset 19, « Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc qu'il y a plusieurs membres et un seul corps, l'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». On va continuer la lecture, mais moi je vais la continuer dans la transcription parole vivante. Les versets qui suivent ne sont peut-être pas très simples à aborder comme ça en une lecture rapide. Comme je ne vais pas trop les commenter, je vais vous les lire dans la transcription parole vivante pour qu'ils s'éclaircissent un peu. Et après on reviendra sur votre version. Donc verset 22. Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes, celles qui sont faibles et cachées sont particulièrement nécessaires. Et celles que nous estimons les moins dignes d'intérêt sont celles dont nous prenons le plus grand soin, de sorte que nous les traitons avec des égards dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a fait de notre corps un ensemble harmonieux dans lequel il a disposé les différentes parties de manière à donner une fonction essentielle aux organes les plus humbles, afin qu'on honore davantage ceux qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et donner aux différents membres le sens de leur solidarité réciproque, que chacun d'eux ait le souci des autres et leur témoigne une égale sollicitude. Si on devait le résumer, le transposer un petit peu pour que ce soit plus clair, c'est comme si l'on disait bien, à celui qui est, je parlais de ceux qui ne sont pas visibles, qui sont derrière le balai, qui font des visites que personne, voilà. À eux, l'honneur, à côté de ceux peut-être qui président, de ceux que l'on voit, mais ceux qui l'ont naturellement, par leur fonction, finalement, ne rajoutent pas, on n'a pas rajouté d'honneur. Et c'est dans cet équilibre que Dieu a permis, finalement, que notre cœur soit dans l'harmonie, mais aussi que dans l'Église de Jésus-Christ, il y ait de l'harmonie. Voilà, je les résume très brièvement, et on prend la suite au verset 26, donc dans votre version, si un membre souffre, c'est ça. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Amen. Ce sont des versets extrêmement riches, hein, mais qui nous montrent justement cette nécessité de vivre cette interdépendance les uns vis-à-vis des autres. Oui, notre connexion à la tête, vous savez, quand on a lu ce psaume tout à l'heure, ce psaume 133, où il y a cette onction qui descend sur la tête, on peut le transposer à l'Église où Jésus-Christ est la tête de l'Église et cette huile qui descend, c'est vraiment l'onction du Saint-Esprit qui va descendre sur tous les membres de ce corps, c'est-à-dire tous les croyants, toutes les pierres vivantes. Et c'est vraiment une unité à la fois avec le Christ et aussi une unité les uns avec les autres. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a une responsabilité individuelle, bien sûr, sur le plan du salut. Nous sommes sauvés pour notre propre compte. Hein. C'est quelque chose de très personnel et individuel. Mais nous voyons aussi que parfois, l'Éternel juge notre vie en tant que communauté. Les diverses lettres qui sont écrites dans l'Apocalypse s'adressent à des églises. Et il y a une notion aussi pour nous, communautaire, de cette vie, à la fois avec le Christ, mais aussi de cette vie, les uns avec les autres. J'avais dit que je vous amènerai sur un dernier verset. Alors on y va ensemble dans Actes au chapitre 2. Actes chapitre 2. Quand on voit comment les premiers disciples vivaient à la fois cette relation avec le Christ et cette relation les uns avec les autres, nous voyons que c'était quelque chose d'extrêmement aussi important pour eux. Rappelez-vous que le jour de la Pentecôte, on peut prendre par exemple le psaume 133 que nous disions tout à l'heure, vous savez cette onction qui descend sur la barbe d'Aaron, on peut le comparer à ce qui s'est passé aussi le jour de la Pentecôte, où il est écrit qu'ils étaient tous ensemble, selon ce qui leur avait été d'ailleurs demandé. Mais ils étaient dans cette unité. Et on a souvent ce témoignage de l'Église primitive où ils étaient qu'un cœur et qu'une âme, cette relation vraiment vivante les uns vis-à-vis des autres. Il est dit, acte 2, verset 42, ça nous a été rappelé dimanche matin, ils persévéraient. Et le terme persévérer, c'est quelque chose de très fort. Ils étaient assidus, ils s'attachaient à la chose. Hein. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La communion fraternelle est au même niveau dans leur persévérance que la prière, que l'enseignement et que le partage de la Sainte Cène. La communion fraternelle, on voit un petit peu, vous savez, c'est un peu comme une forme de chaise, ça fait quatre piliers un petit peu de l'Église primitive. Mais la communion fraternelle, c'est quelque chose de fondamental et d'important. Combien je vous remercie de vous être approchés ce soir. Ça a mis un peu de désordre dans le début de la prédication, mais je me suis senti beaucoup plus à l'aise parce que c'est ainsi que je vois l'unité des croyants. Bien sûr qu'on peut être très proche et très éloigné de cœur, pas de souci, loin des yeux, hein, loin du cœur. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions réaliser au travers même de cette fable chinoise que l'esprit individualiste tel que le monde voudrait nous l'imposer ne doit pas exister, en tout cas, dans le royaume de Christ. Bien au contraire, nous devons donner ce témoignage autour de nous. Rappelez-vous, on ne l'a pas lu, mais c'est la suite du verset. « Aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Et le témoignage des premiers chrétiens était celui-ci. « Voyez comme ils s'aiment. Voyez, voyez. » Voilà un témoignage, en tout cas, à donner. Je sais que nous le vivons et nous sommes encouragés sur ce plan dans notre assemblée. Et voilà ce que le Seigneur avait placé sur mon cœur pour que nous puissions aller, même si c'est qu'un tout petit peu, un petit peu plus loin, et que nous puissions vraiment vivre cette dimension comme le Seigneur Jésus le veut pour chacun d'entre nous. Prions un instant le Seigneur, s'il vous plaît. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir une fois de plus pour ta parole. Merci de nous l'avoir laissée dans notre langue sous plusieurs formats. Seigneur, nous pouvons que te bénir pour toutes ces traductions que tu nous as données, Seigneur, et qui nous donnent d'approcher le plus finement possible, Seigneur, la pensée que tu as voulu nous laisser, Seigneur, encore ce soir. Tu as toi-même donné cet exemple, Seigneur, d'abnégation personnelle. Tu t'es humilié. Tu nous as montré même que pour celui qui était le plus grand, finalement, au milieu de nous, c'était celui qui était comme un esclave, comme tu l'as été toi-même, Seigneur. Et ce témoignage, Seigneur, nous voulons le vivre au milieu de nous. Merci pour les progrès qui ont été faits. Merci pour tout ce que tu nous as donné déjà de réaliser et de vivre. Et je te prie particulièrement pour nos vies personnelles, les uns et les autres, que nous puissions être chacun d'entre nous véritablement attachés à toi, que notre vie personnelle soit quelque chose d'intense, que cette communion, Seigneur, personnelle avec toi soit toujours quelque chose de beaucoup plus intense. Nous l'avons chanté tout à l'heure, oui, te connaître, c'est ça qui est fondamental dans notre vie. Mais il faut aussi que ça rejaillisse, Seigneur, dans notre relation les uns avec les autres. Cela n'aurait pas de sens, Seigneur, de vivre une vie pleinement épanouie avec toi si nous ne vivons pas également une vie avec nos frères et sœurs, telle que ta parole de Dieu nous l'a enseignée. Nous voulons te prier particulièrement pour tous ceux qui se sont éloignés de l'Église locale pour différentes raisons. Nous ne sommes sûrement pas là pour les juger, mais nous voulons te prier, Seigneur, que personne ne se prive, Seigneur, de cette communion fraternelle et que pour nous, qui serons peut-être responsables de les accueillir demain, que nous puissions les accueillir comme toi tu nous as accueillis, que nous puissions les aimer comme toi tu nous as aimés. Seigneur, que ces versets que nous avons lus peut-être un peu rapidement soient une vraie réalité au milieu de nous, mais nous ne pourrons pas y suffire seuls. Alors nous comptons sur ta grâce, Seigneur, et merci de nous l'accorder encore en cette soirée. pour que ton nom soit pleinement glorifié au travers de nos vies et de notre Église, dans le doux nom de Jésus-Christ. Amen.